RMC, les grandes gueules.
Alors c'est vrai qu'on a les nouvelles mobilisations qui se préparent, mais on a surtout aussi ce qui se passe à l'Assemblée nationale où on fait des calculs arithmétiques fins parce que ça peut passer ric-rac ou alors avec le 49-3.
Oui, et la dissolution, c'est une pression qui est exercée sur les députés depuis le début de cette mandature puisqu'il n'y a pas de majorité relative et à tout moment, Emmanuel Macron peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Il pourrait d'ailleurs dire aux députés « si vous ne votez pas ma réforme, on repasse par la case élections et pas sûr que ces députés de la majorité soient tous réélus. Alors à la dissolution, ça peut profiter à qui ? Là aussi, c'est faut être quand même très prudent. Est-ce qu'on est sûr que ça profiterait à Marine Le Pen ? Est-ce qu'elle pourra imposer une cohabitation à Emmanuel Macron ? Alors certains, alors il y a des scénarios qui dessinent un scénario de cohabitation avec Marine Le Pen. Comme ça, Marine Le Pen se cramerait à Matignon et en 2027, elle ne pourrait pas se représenter. Alors c'est vraiment des scénarios de politique fiction. D'autres estiment que tout le monde a à perdre avec la dissolution, puisque les Français, de toute façon, ne votent plus et que c'est pas sûr qu'ils auraient envie de revoter ou de se mobiliser pour un vote s'il avait lieu dans les prochains mois. Bruno Poncet, que t'en penses quoi, la dissolution? Ça serait la solution, finalement? Est-ce qu'on est sûr d'ailleurs qu'on aurait une majorité dans la foulée?
Je vais commencer mon propos en ouvrant un peu le débat, ce qui se fait pas du côté du gouvernement. Dans un monde où aujourd'hui les gens, tu vois, la fin du mois commence des fois le 3 ou le 4. Dans un monde qui s'embrase, Israël, dans un monde où on tue les femmes et les enfants comme en Iran, dans un monde, tu vois, où la guerre est à nos portes, mine de rien, eux, ils parlent de dissolution et de politique politicienne. Donc déjà, tu vois, tu te rends compte un peu le niveau de ce gouvernement. Et deuxièmement, enfin, à un moment donné, les gens, enfin, moi, de penser...
C'est la démocratie, quand même.
Ouais, enfin, la démocratie... Tu vois, quand ils parlent d'élection mi-mandat, nous, on a connu
alors,
ça.
Alors, enfin, si moi, s'intéresse à la démocratie, moi, j'ai une proposition, ça s'appelle le référendum.
Oui, ouais, déjà, pour commencer, ce serait déjà pas mal.
Mais ça, vous savez que...
Avant de dissoudre, déjà, qu'ils essaient le référendum.
Mais hier, Alain, t'as dit un truc dans l'émission que j'ai regardé... T'as dit que les députés qui ont été les députés qui ont été élus ce week-end, ils ont été élus avec 30% des voix. Ça veut dire que les gens se foutent de tout ça. Réellement, c'est que les gens, ils ont d'autres priorités, ils n'ont rien à foutre d'aller voter.
Moi, je peux vous dire que les Français se mobiliseraient. Vous verriez le taux le taux de participation au référendum. Ah là, il y aurait du monde.
Oui, mais pour dire non.
Alors je sais qu'en 2005, on était trop. Je le dis con, apparemment, pour comprendre la Constitution. Oui. Ils nous disaient tous, mais vous êtes trop bêtes pour comprendre. Ah, Sarkozy, on a voté non, voilà, ouais. Sarkozy et Hollande, main dans la main. Là, on va être trop bêtes aussi pour comprendre la réforme des retraites. La question de la dissolution, c'est dans l'intérêt de qui? Parce qu'il y a eu le dernier sondage prospectif de dissolution, c'était novembre 2022, l'IFOP-JDD. Et ce qu'il révélait, c'était que le seul groupe, le seul parti qui progresserait, ce serait le RN. Or, je crois... qu'on apprécie ou pas son projet. Mais enfin, Emmanuel Macron nous a dit, main sur le cœur, que ce soit en 2017 ou en 2022, « Ah, moi, je suis là pour faire rempart au Rassemblement national et moi, jamais, je ne ferai monter le Rassemblement national. » Alors donc, si son objectif, c'est pas de faire monter le Rassemblement national, vaut mieux pas qu'il fasse une dissolution de l'Assemblée.
Moi, je crois que
parce que s'ils la font, le RN va continuer à monter et là, le RN sera vraiment le premier groupe, même s'il l'est aujourd'hui. En réalité, la NUPES, c'est une assemblée de partis, donc... La NUPES est le premier groupe d'opposition, mais la réalité, c'est que c'est le RN. Parce que tout seul, il est plus important qu'LFI.
Ah, mais les élections, là, viennent de prouver le contraire.
Qui se méfie? Parce que, en plus, dans le sondage de novembre 2022, Renaissance était stable avec 27% au lieu de 26%. Donc, ils étaient stables. Ouais. Mais là, à mon avis, Renaissance va se prendre un gros coup dans l'aile s'il faisait la dissolution au printemps 2023.
Les élections partielles de ce week-end, là, ça donne exactement la stabilité pour Renaissance. Non, moi, je pense que.
Oui, les partielles n'ont pas démontré ce que tu es en train de dire.
Les partielles, il y a deux partielles qui se battent en duel.
La question pour Macron, c'est
pas une campagne législative.
La question pour Macron, à mon avis, c'est pas à qui profite le crime de la dissolution. À mon avis, il y a deux schémas. Il y a une dissolution forcée, en quelque sorte, s'il y a une motion de censure qui passe dans la réforme des retraites, et c'est pas impossible.
Ou un référendum.
Si ça s'en manche mal, si effectivement la pression de la rue est assez forte, comme l'espère Bruno, c'est pas impossible, mais c'est la dissolution subie. Et effectivement, les menaces, pour le coup, Olivier, il les a déjà proférées. Il a dit, et c'est comme ça qu'il met la pression, notamment sur les élus républicains, qui seraient en fait les grands perdants. Au profit du RN d'élection partielle. Après, il y a la dissolution qu'il aurait choisie. À mon avis, il a besoin de stabilité jusqu'en 2024 parce qu'il y a les JO, il y a les élections européennes et puis ça ressemblerait quand même 2024 à une forme de mi-mandat. Mais à ce moment-là, il peut se poser la question de dissoudre. Ça aurait, à mon avis, deux atouts. Le premier atout, c'est remettre du temps de respiration démocratique parce que ce faisant, il se créerait un peu comme aux US, aux États-Unis d'Amérique,
les
élections intermédiaires. Donc en gros, il resynchronise, enfin il désynchronise.
Il l'avait d'ailleurs théorisé l'élection. Dans une
interview. Il l'avait déjà dit dans l'entre-deux-tours.
Il désynchroniserait l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc en gros, on aurait tous les 5 ans des présidentielles et puis toutes les 2 ans et demi, 3 ans des élections législatives. Donc ça donnerait un temps démocratique. Et puis, et je pense que ça lui permettrait aussi de faire un gouvernement, non pas de faire venir Marine Le Pen, mais de tenter de faire un grand gouvernement de coalition à l'allemande. Je pense qu'il a envie de faire.
Et avec qui, mon avis.
Mais il pouvait le faire. Mais pouvait le faire dès qu'il était.
Pourquoi il le ferait ? Alors, t'inquiète pas, tu auras des candidats à droite ou à gauche. Et d'ailleurs, regarde les élections, pas les élections, mais les déclarations de Cazeneuve récemment, qui sont beaucoup plus souples vis-à-vis de Macron. Donc, il y aurait des candidats pour faire un gouvernement de coalition. Et ça aurait l'avantage, en plus, de remettre un peu d'incertitude sur l'élection présidentielle à venir et les successeurs possibles.
Tu m'excuses. En Allemagne, les coalitions, elles se font avec des vrais chefs de parti, pas avec Cazeneuve qui est à peine au Parti Socialiste et qui se mêle de rien, pas avec des LR qui sont au fin fond des oubliettes.
Non,
mais tu fais des vraies coalitions en Allemagne, c'est des vraies coalitions avec un vrai programme commun.
Ils ont déjà topé avec Ciotti sur la réforme des retraites.
Ils vont le mettre.
Mais en France, la monarchie présidentielle ne peut pas permettre une décalation de coalition à l'allemande.
On vit des choses qu'on n'avait jamais vécues. Pardon, vous avez toujours dit qu'un président élu obtenait forcément une majorité absolue derrière. C'était la règle. On voit bien que cette règle a été démentie. On nous a expliqué qu'un président ne pouvait pas être élu sauf s'il y avait la case cohabitation. Macron a démontré qu'on pouvait être élu sans cohabitation. Donc moi, je pense que là, on est dans une situation complètement nouvelle avec des taux d'abstention. En fait, ce qui change la donne, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne votent plus. Donc quand tu as des taux d'abstention aussi forts, eh bien, n'importe qui, entre guillemets, peut passer. Pardon,
on regarde
ce qui s'est passé au municipal.
C'est donc
à
pour
Paris,
ça
par exemple, aujourd'hui,
que si ce gouvernement
Hidalgo soit réélu et pourtant elle a été réélue.
Et ben voilà. Et ben c'est pourquoi quand on veut vraiment entendre la voix du peuple, on utilise l'outil du référendum, parce que si Emmanuel Macron veut à la fois faire passer sa réforme, enfin ça il aura la réponse tout de suite, et tester sa popularité, il aura aussi la réponse tout de suite, qu'il fasse un référendum. Mais là au moins, on préfère faire des élections biaisées avec des 20% de participation pour se faire élire et ensuite venir dire mais vous avez voté pour moi en toute connaissance de cause. Bah bien sûr, il y avait trois Pékin qui votaient.
Mais vous croyez pas qu'il est en train de regarder du côté de Mitterrand, surtout, tu sais que Mitterrand il avait fait monter derrière Chirac, et derrière il avait tué Chirac, il était repassé. Tu crois pas qu'il est Macron, parce que Macron c'est un vieux, peut-être qu'il est en train de regarder un peu en arrière en disant mais l'autre pour plomber peut-être le parti qui te colle un peu aux fesses, bah tu le fais monter et derrière tu le tapes et tu le fournis.
Qui colle aux fesses?
Moi je suis d'accord avec le RN. Moi je pense qu'il
n'a pas utilisé tous les outils de la Constitution. Il manque la dissolution, le référendum. Les référendums, il n'en fera jamais sur la réforme des retraites.
Il pourra en faire
sur les institutions, puisqu'ils vont relancer une grande.
Sur la fin de vie, peut-être.
Et sur la fin de vie ou sur la 6ème République.
Peut-être la fin de vie des institutions pour mélanger les
deux. La fin de vie de son
palliatif de la 5ème République.
Excusez-moi pour le coup. C'est vraiment une honte. C'est voilà. Une honte de faire un référendum sur des sujets qui sont des sujets, excusez-moi, mineurs et qui ne sont pas la priorité.
La fin de vie, c'est pas mineur.
Pas sûr.
C'est pas prioritaire au regard. Non, la dépendance, c'est pas la fin de vie, excuse-moi. Hein. La question de la dépendance.
Mais le suicide assisté.
La question de la dépendance et le suicide assisté, c'est pas la même chose. L'euthanasie et la dépendance.
Ça règle le problème
de la fin de vie.
Alors attendez, je voudrais qu'on passe par le Bas-Rhin, retrouver Samuel. Bonjour Samuel.
Donc le référendum, c'est sur les retraites.
Bonjour Samuel.
Bonjour Barbara, une petite parenthèse pour Barbara. Je voudrais juste rappeler que son ami Ursula s'est augmenté de 7% depuis le début janvier.
C'est un petit truc. Ma copine Ursula. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celle-là.
Alors notre ami radiologue, un fidèle des GG, Samuel, qu'est-ce que vous en pensez de la dissolution du scénario?
Il va pas la faire, vous pensez bien. Je veux dire, si demain vous avez plus de 70%, voire même un peu plus, de gens qui sont mécontents de sa politique, vous pensez bien que demain, il va pas faire se tirer une balle dans le pied et après dire « Ah, mais vous comprenez, pendant 4 ans, 3 ans, machin, j'ai eu des gens qui étaient contre moi et qui ne pouvaient rien faire. » Donc forcément, il va garder ces gens-là, ces députés, même en gardant des gens qui ne sont pas bien, comme M. Pellerin, par exemple, qui est coquillonomane et qu'on gardera quand même. C'est pas grave. Je veux dire, tous ces gens-là, ils restent entre eux. Ils vont voter entre eux. Regardez comme ils s'en foutent des gens. Il y a 2 millions de personnes dans les rues. C'est pas grave.
Ouais, bah, attendez, il y a la légitimité de la rue, la contestation sociale, mais il y a aussi des gens qui ont été élus. Et les gens qui ont été élus actuellement, ils ont été élus pour un mandat de 5 ans. Moi, je veux bien qu'on revote tous les ans parce que vous êtes pas content, Samuel. Mais les gens ont voté. Ils ont choisi Macron président. Ils peuvent le regretter maintenant, hein, tant pis pour eux, notamment les gens de gauche. Je termine, les gens de gauche sont contre la mobilisation, contre la réforme des retraites, c'est les mêmes qui ont voté Macron. Bon, alors c'est.
Il faut faire barrage
le fameux barrage au fascisme.
Allez-y, attends, allez-y, Samuel.
Le fameux barrage. Mais Bruno Poussin a voté Macron.
Allez-y, allez-y, Samuel.
Surtout pas,
monsieur Truchot. Je vous rappelle que dans ma région, le président de la région a été élu avec 10% des inscrits.
Oui, monsieur Rottner, tout à fait.
Ils s'en foutent, ils s'en foutent des pourcentages. Ils s'en foutent des pourcentages.
Je veux dire, que mais vous je suis d'accord, Samuel, mais les gens sont élus. Alors, on invente un autre système.
Mais parce que ils
Samuel, merci. Oui. On va continuer la discussion.
Ça a été proposé,
dans
ça, le seuil d'éligibilité.
Oui.
À partir d'un certain seuil, ton élection n'est pas valable. Je suis désolé.
Ça, on va continuer la discussion dans un instant, puis on passera du côté de Toulouse, retrouver Jean-Wilfried Forquès pour BFM TV, voir où en est la mobilisation. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Jean-Baptiste Djebari, Bruno Poncet et nous sommes avec Barbara Lefebvre. On va passer par Toulouse, retrouver Jean-Wilfried Forquès en direct sur RMC, RMC Story. Jean-Wilfried, ça y est, le cortège toulousain a commencé à bouger.
Oui, c'est ça. Nous sommes au cœur du dispositif ici dans ce cortège. Beaucoup de monde, impossible à chiffrer pour l'instant, mais en tout cas des milliers de personnes devant et derrière ici. Nous sommes avec Cécilia. Bonjour Cécilia. Vous êtes fonctionnaire. Pourquoi vous êtes dans le cortège ?
Alors, je suis dans le cortège donc pour défendre les retraites. Ce que je veux dire, c'est que les députés, les ministres et les sénateurs, une fois qu'ils ont eu un mandat, ils ont une retraite à vie. Voilà. Et nous, on nous demande de travailler plus tard, plus longtemps et plus... Voilà.
Donc vous êtes dans la rue, vous étiez dans la rue la dernière fois ?
Oui, jeudi dernier, j'étais dans la rue aussi.
Alors c'est pas le cas d'Eliane qui, elle, est retraitée. Eliane, vous êtes ici pour la première fois. Pourquoi vous êtes dans le cortège aujourd'hui ?
Parce que je suis très mécontente vis-à-vis que je suis retraitée. J'ai 70 ans, obligée de travailler. Je suis épuisée. J'ai une retraite de 800 euros et une invalidité de 200 euros. Voilà, et je conteste tout ce qui se passe actuellement parce qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. Et j'estime que des personnes à 70 ans sont fichues pour continuer à avancer. Voilà.
Vous avez espoir que ce projet de réforme ne passe pas ?
J'ai espoir qu'il ne passe pas. Je voudrais que les choses s'arrangent. Je crois que je me suis mal exprimée, excusez-moi. J'espère que Macron va baisser sa garde parce que là, il nous pèse sur le système. À part s'occuper de la guerre de l'Ukraine, c'est très important. Envoyer des avions, il y a de l'argent. Mais pour aider les retraités, rien.
Voilà pour l'esprit, l'ambiance ici dans ce cortège, Olivier, Alain, ici à Toulouse, où plusieurs milliers de personnes sont rassemblées depuis 10 heures.
Ils ont quitté CGT ou pas
les cortèges à travers la France, on le vit en direct sur RMC.
On dit bien n'importe quoi.
Pourquoi on dit n'importe quoi ?
Cécilia, là, qui disait les députés, les ministres et les sénateurs ont un régime de retraite à vie. Enfin, c'est absolument faux, quoi.
C'est-à-dire ?
Quand t'es ministre, même sur Pôle emploi ministre, t'es payé 3 mois et après t'es plus.
Par exemple, toi, t'as été député.
Et moi, j'étais député 5 ans. Il y a plus. Enfin,
les régimes. Tu toucheras une retraite de parlementaire.
Mais jamais. Alors, tu touches le droit commun. Mais exactement le droit commun. Avant, il y avait des retraites. Et effectivement, quand tu faisais 4 mandats de député, ce qui arrivait à beaucoup de députés, t'avais une retraite à vie et c'était beaucoup plus que la moyenne. Aujourd'hui, le régime du droit commun. Le régime des députés, c'est le régime du droit commun.
C'est
fait en 2017.
Les sénateurs formés pour les députés, moi pour les sénateurs.
Les sénateurs, ils ont quand même un truc, avantageux. Les sénateurs, faut pas oublier. Hein.
Ouais, alors, eux, ils n'ont pas complètement convergé avec le droit commun. En tout cas, les députés, et c'est nous qui l'avons fait en 2017, pour le coup, sont strictement.
Il faut le rappeler.
C'est vrai que vous saviez que vous faisiez qu'un mandat parce que vous n'étiez pas bon, donc ils savaient que vous allez faire jeter après.
Ah oui. Bon, après, on fait du syndicalisme du coup.
Exactement.
C'est la pente.
Ah mais nous, on perd de l'argent.
C'est fini.
Ce que révèle ce que disait Cécilia, etc., c'est ce sentiment profond d'inégalité. Même si on peut dire des erreurs, des approximations. Non, mais ça révèle. Vraiment, ça révèle un profond sentiment d'inégalité au sein de la population.
Oui, mais
vraiment, des privilèges, etc.
Moi, je veux bien tout entendre. Et je comprends pourquoi les gens sont dans la rue, mais on peut pas non plus dire n'importe quoi et sombrer dans le populisme anti-élu à chaque instant. Les élus, ici même, on les taille tous les jours dans les grandes gueules et on s'en prive pas, et je suis pas le dernier. Mais à un moment donné, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Si effectivement les députés ont réformé eux-mêmes leur régime, il faut le dire, voilà. Il y a d'autres choses à dénoncer.
Hein. Oui, mais Olivier, si tu avais tendu le micro, si tu avais tendu le micro au sans-culottes en 1792 ou 90, à la prise des Tuileries, tu crois qu'il t'aurait développé des théories à la Montesquieu.
C'est notre responsabilité de pas laisser dire n'importe quoi.
Derrière, il y a du populisme.
Non, mais ça vous empêche pas d'inviter des gens qui disent que nous, on a encore la prime charbon, que compte tenu pas de grève. Donc, à un moment donné, tu peux faire rigoler.
Non, on invite simplement des gens qui disent que vous partez. Pardon, mais vous partez plutôt que les autres à la retraite et avec la fameuse clause du grand-père.
Oui, puis on a le régime charbon.
Le régime social est maintenu. C'est une vérité.
Non, mais tout le monde ne sait pas que c'est fini. Tu vois, t'as des débats où ça repart tout le temps.
Vous avez la prime, enfin mais, arrête. Là, tu vas sur un terrain glissant.
Non, mais arrête, Olivier, t'arrêtes pas de me dire à chaque fois t'es payé pendant les grèves. Bah non, je suis pas payé pendant les grèves, mais je perds des ronds, mon copain. Et puis je perds moi. Je veux dire, après, ma femme, elle me tabasse parce que j'ai pas.
Et de dire, oui, c'est toujours les fonctionnaires.
Il y a un numéro vert, par exemple.
Quand vous dites les fonctionnaires, ils peuvent faire grève, les fonctionnaires, ils font grève, ils n'ont pas de salaire non plus. Donc, c'est pas. Est-ce qu'ils peuvent pas faire plus grève que les gens du privé? On n'est pas payé comme les gens du privé. Donc, de tous côtés, il y a des caricatures.
On ne peut pas dire que les cheminots ont le même statut que les salariés du privé.
Voilà, c'est vrai. Je veux dire qu'on n'a pas les mêmes salaires.
Vous ne pouvez pas ignorer le fond de ce que pensent les gens, même s'ils n'ont pas forcément.
Vous avez un mépris de classe.
Il y a un fond profond de sentiment d'inégalité.
C'est une connerie, c'est pas une question de classe. Non, je rectifie, c'est
vous
tout.
Vous êtes au côté 16e, donc il faut les quelqu'un de la campagne, vite, tu t'allumes.
Ça t'arrange qu'elle pense ça en vérité. C'est ça qui est pas normal. Oui. C'est que le mépris de classe, justement, c'est prendre ces gens pour des cons. Alors qu'elle conteste la réforme des retraites, elle peut tout à fait la contester sur ce que vous racontez avec des arguments rationnels, avec des faits, des objectifs. Ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi.
Oui, mais à quel moment elle accède à l'info? Peut-être qu'elle écoutait sur CNews, ils ont dit une connerie comme ça et derrière elle enquillait.
Ah non, laisse tomber, sur CNews, ils sont à mort pour la réforme et ils sont sur la ligne Zemmour. Si on pouvait travailler jusqu'à 75 et crever au travail, on le ferait.
C'est vrai qu'en même temps, ils sont tous vus autour de la table.
Ah bah, et puis eux, ils sont pas prêts à prendre la retraite, excuse-moi. Un Bilger, putain, il est là jusqu'à 90.
Marc, bonjour Marc. Marc du Finistère, consultant indépendant BTP, un fidèle des grandes gueules, vous aussi Marc. Est-ce que vous pensez que la dissolution, ça peut être la solution?
Ben, comme je disais à votre collègue, là, je suis partagé par rapport à la dissolution. La dissolution, pour quoi faire? Pour quel projet? Aujourd'hui, on ne sait pas trop où est le... On ne sait pas où ils sont, les macronistes. Enfin, moi, je... franchement, moi, j'aimerais plutôt qu'ils partent. Franchement, j'aimerais vraiment qu'ils partent.
Et il a été réélu il y a un an. Enfin, il y a moins d'un an.
Ah, Olivier. On sait comment s'est passée la campagne présidentielle.
Autres avaient qu'à être meilleurs. Enfin, à un moment donné, moi, je veux bien, mais les conditions de cette campagne, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas eu de campagne, il y a eu la guerre en Ukraine. Ça a sans doute favorisé Macron. Mais c'était aux autres d'être bon. Pardon, Valérie Pécresse n'a pas été bonne. Anne Hidalgo a été nulle. Et Marine Le Pen, on a vu aussi les limites. Donc, à un moment donné.
Parce qu'on les a pas vues, les limites de Macron.
Laissez parler Marc.
Olivier, je suis là. Ok, d'accord, un point. Ok, 1-0. Pas de souci.
Maintenant, je vais dire ça, il va se gosser.
Allez-y, Marc.
Mais dans ce cas-là, j'ai préféré à la rigueur que les macronistes disent voilà, soit je suis de gauche, soit je suis de droite. Voilà, ça au moins, ça serait clair. Parce que en même temps, j'en ai, franchement. Enfin, moi, perso.
Mais Marc, ils peuvent être ni de gauche.
Mais regardez. Comme je disais à votre standardiste, Bruno Le Maire, là, il y a 2-3 jours, là, il a dit, ouais, il faut serrer des boulons, quoi. Et ben, il va rétablir la conduite. Ah, mais attendez, mais vous avez vu combien ils ont dépensé?
C'est le type qui dépense, qui tout d'un coup dit, il faut faire des économies.
Moi, je suis sur un quadrat, mais je suis sûr qu'on n'arrivera jamais à rembourser toute cette dette, quoi.
Ah, non.
Ensuite, Darmanin, on sait pas où ils sont. Donc moi, j'aimerais à la rigueur.
Vous en avez marre du en même temps.
Ah oui, j'en ai marre.
Vous êtes de quelle couleur politique, Marc? Vous avez votre.
Enfin, moi, je suis LR.
Alors moi aussi je regarde les LR, ce qu'ils disent, parce que les LR maintenant ils sont plus à gauche que les macronistes. C'est eux-mêmes qui disent on a obtenu des avancées sociales.
Je peux pas écouter la retraite à 65 ans. puis j'ai fait la campagne des LR présidentielles. Et ce que je voudrais, effectivement, c'est qu'on tienne compte de la pénibilité du travail. Moi, je travaille. Moi, j'ai pas forcément de problème au travail. Enfin, je suis en bonne santé pour l'instant, et je pense qu'effectivement, je peux aller à 65, voire peut-être même plus. Mais je sais que dans le secteur où je suis, il y a des gens effectivement qui sont fatigués.
Enfin, BTP,
ça se voit physiquement, ça se voit. Donc, ils ne pourront pas aller jusqu'à 65 ans. Donc,
ça, demander à ceux qui travaillent déjà dur de travailler plus, c'est une honte. Et là-dessus, c'est vrai que Pradier et certains LR ont raison. Et d'ailleurs, au début, Ciotti, il disait trop rien, mais là, il a vu ce qui montait chez LR en disant on ne peut pas aller vers quelque chose d'aussi injuste.
Mais Marc, ça veut dire quoi être LR? Parce que entre la ligne Pradier, qui effectivement devient quasiment plus gauchiste que Bruno Poncet, et la ligne Ciotti, qui est
un macroniste qui va faire la leçon, quoi. Non, qui va faire la leçon. Attendez. Mais pas un macroniste qui va me faire la leçon.
Moi, je suis sorti.
Il vous pose une question.
Je suis un repenti, moi, Marc.
Ouais, sans étiquette.
Okay, d'accord.
Non, mais c'est vrai. Du coup, vous êtes dans quel camp, quelle ligne?
Non, moi, je serais plutôt la ligne Retailleau-Pécresse.
La ligne gagnante.
Non, mais ce que j'entends chez Marc, il faut écouter ce qu'il dit. Il a marre du en même temps. Peut-être que, effectivement, après Macron, ça va être le retour du clivage. On a peut-être besoin de plus de clivage. Le problème, c'est qu'on avait un mauvais clivage. Parce qu'on avait des socialistes qui...
La politique s'est clivée. Georges Pompidou, enfin, j'étais pas né, mais il a dit, effectivement... gouverner, c'est contraindre. On peut pas plaire à tout le monde, c'est plaire à personne.
Marc, on avait des mauvais clivages, c'est-à-dire qu'on avait des gens de droite qui pensaient pas la même chose, mais qui étaient ensemble, des gens de gauche pareil qui étaient ensemble dans le même parti, mais qui étaient très très différents. Certains étaient plus libéraux, quasiment marxistes.
Vous savez, les gens de droite, ils sont.
Non, mais il faut refaire du clivage, mais du clivage qui a un sens. Quand j'entre, par exemple, sur l'Europe, il y a un vrai clivage sur effectivement l'économie. Il y a ceux qui veulent une économie administrée, d'autres qui sont pour la liberté d'entreprendre, etc. Et c'est vrai que le fourre-tout du en même temps est un peu compliqué. Quand on voit Olivier Dussopt, qui était quand même socialiste, et qui se retrouve maintenant à défendre cette réforme des retraites,
je pense que ça pourrait aller dans le sens de Marc.
Quand on ressort des vidéos là où effectivement
c'est
parce que le logiciel, enfin, je pense que le monde pour le coup a vraiment changé depuis 2017 et que le logiciel de 2017 il est évidemment aujourd'hui plus à jour.
C'était pas non plus le Moyen-Âge 2017,
non, mais
globalement tout a changé.
Non, mais globalement t'avais un monde dans lequel la mondialisation se déroulait pas trop mal, les énergies étaient pas chères, aujourd'hui les énergies sont chères. On se souciait que des consommateurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que les producteurs, ça compte. On voulait pas relocaliser l'industrie. Maintenant, on veut tous relocaliser l'industrie.
Ce monde-là.
Et le Covid et l'Ukraine a exacerbé encore plus tout ça. Donc, je suis d'accord que en même temps, si tu prends l'exemple de l'énergie, par exemple, ou de l'Europe, c'est plus difficile aujourd'hui de saupoudrer un peu tout.
Ça
marche moins bien. Donc, on a besoin, effectivement, de se dire, on a moins d'argent.
De faire des vrais choix,
d'y aller à fond, de dire, on veut mener ou le pays en 2040, 2050, et en fonction de ça, on investit là où on pense que c'est le plus efficace. C'est sûr que ça, c'est nécessaire.
C'est depuis le début qu'Emmanuel Macron, ne peut pas fonctionner.
Pas ça du tout non plus.
Quand tu as un président qui, au moment de ses vœux cette année-là, vient te dire, il y a des crises qui nous sont tombées dessus, qu'on pouvait pas prévoir, il nous dit crise écologique. Non, mais excuse-moi, ça va faire. Mais c'est 1970, les premiers rapports qui disent qu'on va avoir un vrai problème avec les énergies fossiles, etc. Évidemment, les écolos, machin, on les écoutait pas. Mais je suis désolée, il y a même encore 10 ans, même Hollande, il avait mis un peu d'écologie dans son.
Ils ont dit des choses qui sont aujourd'hui fausses.
Sur le nucléaire, ils ont dit n'importe quoi depuis 20 ans.
Ils étaient anti-nucléaires.
C'est pas ça. Là, je suis juste. Je voudrais juste, si tu peux.
Je pense que j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui,
donc si je pouvais juste terminer une phrase, de dire simplement que Emmanuel Macron, il y a un certain nombre d'échéances qui sont des échéances qu'on connaît depuis très longtemps. La désindustrialisation, j'ai découvert après le Covid, on fait plus de médicaments en France. La question écologique, j'ai découvert la crise écologique. Le grand âge, j'ai découvert. Enfin, il ne cesse de découvrir des trucs. On dirait qu'il a attendu d'avoir son stage de 2017 pour découvrir.
Il n'est jamais été élu.
Arrêtez de se foutre.
Ça marche. Merci Marc d'avoir aimé dans le GG. Alors la question,
il n'y a pas élu.
Non, mais la vraie vie,
peut-être aussi sa vie perso et le fait qu'il vit dans une autre planète.
Je suis d'accord avec toi.
Hein, la planète du 8e arrondissement de Paris.
On a posé la question. Je remercie Marc d'avoir été avec nous. Dissolution, la solution.
C'est la Providence d'Amiens.
Qu'est-ce que vous nous dites? Dissolution, la solution. Oui, 67-33.
Que la Macronie comprenne que c'est oui pour dégager la Macronie, à mon avis.